J'avais prévu que le cours de la semaine prochaine serait donné sur Abraham par le père Jean Radermakers. Il a accepté, il le fera. Je n'avais pas prévu de laisser le cours de cette semaine-ci au père Jean-Marie Hainaut, mais il me dépanne parce que j'ai eu des funérailles dans une famille amie et je n'avais plus le temps de vraiment préparer ce cours. Mais je suis évidemment d'autant plus heureux de pouvoir vous laisser entendre le père Jean-Marie Hainaut, que c'est lui qui a préparé l'ensemble du cours dont je me sers. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marie.
Merci Thierry. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce qu'on entend? Parce que ma voix est un peu caverneuse. J'espère que vous n'en souffrirez pas trop. La perspective de ce cours est de voir comment la parole de Dieu éclaire notre agir, notre vie morale. Parole de Dieu qui nous vient à travers l'Écriture sainte et qui nous montre comment toute l'histoire humaine et donc notre histoire à nous aujourd'hui s'inscrit dans l'histoire du salut. Le premier moment de cette histoire est évidemment la création. Thierry en a parlé la semaine dernière. Il a commenté les deux premiers chapitres de la Genèse. Ce soir, nous allons continuer notre méditation de la Genèse en nous concentrant principalement sur le chapitre 3. Je pense que vous avez tous reçu une traduction de ce chapitre. C'est la traduction de la Bible de Jérusalem. Je me suis moi-même servi de la TOB, mais ce sera l'occasion justement de voir un peu les variations que donnent les différentes traductions. La rédaction de ce texte de Genèse 3 a toute une histoire qui va probablement du 9e au 5e siècle, nous disent les exégètes. Une lecture attentive fait apparaître en effet des retouches. Ce texte appartient à la tradition yahviste, c'est-à-dire celle où Dieu est appelé Yahvé. Je pense que vous savez tout cela. De quel genre de texte s'agit-il dans ce chapitre 3? Il ne s'agit évidemment pas d'un texte historique au sens où nous l'entendons. Il n'y avait pas de témoin au récit qui nous est ici rapporté. On peut dire qu'il s'agit d'un mythe, ce qui ne veut pas dire du tout qu'il raconte des choses fausses, purement inventées, sans rapport avec la réalité, avec la vérité. Un mythe n'est pas une fable, une histoire relevant uniquement de l'imagination. Au contraire, c'est une histoire qui éclaire le mystère de notre existence. Une histoire inventée à partir de l'expérience humaine pour éclairer, interpréter l'énigme de notre vie. Freud a montré que le mythe d'Édipe, par exemple, jette une lumière extraordinaire sur la genèse de notre vie affective et de notre vie morale. L'Édipe de Sophocle n'a peut-être jamais existé tel que son théâtre nous le fait voir, mais il est plus vrai que beaucoup d'histoires vraies. le mythe de Genèse 3 est de ce type-là. Dans toutes les cultures, il existe des mythes pour répondre à la question « d'où vient le mal ?» D'où vient la souffrance? D'où vient la mort? Ce sont là des questions existentielles très profondes que tous les hommes se posent. L'homme n'arrive pas à se dire que le mal, la souffrance, la mort sont des choses normales, qui font partie naturellement de la vie, comme on essaye parfois de l'affirmer. Non, elle pose question, et jusqu'à la fin des temps, les hommes tenteront d'y répondre. Dans les peuples voisins d'Israël, il y avait des mythes qui tentaient une réponse. Chez les Babyloniens, par exemple, il y avait un dieu bon, source du bien et du bonheur, et un dieu mauvais, source du mal et du malheur. Les croyants d'Israël, aidés par l'Esprit, vont donner une réponse tout à fait originale à la question du mal. Une chose est absolument claire pour eux, c'est l'innocence totale de Dieu en cette affaire. Dieu n'est pas à l'origine du mal moral. En tentant l'homme, par exemple, pour le mettre à l'épreuve, Dieu n'a pas voulu la souffrance, Dieu n'a pas fait la mort. Je suis bien conscient que toutes ces affirmations, qui sont claires pour les auteurs de notre texte, peuvent nous poser à nous quelques problèmes. Peut-être que nous pourrons y revenir dans le dialogue qui suivra cette petite causerie. En fait, tel est le but principal de notre récit de Genèse 3, répondre à la question « d'où vient le mal ?» et innocenter complètement Dieu du mal, de la souffrance, de la mort. Avec notre esprit historique, nous nous figurons parfois que le but du texte est de nous raconter le commencement de l'histoire. Ce but n'est sans doute pas tout à fait absent, mais le but principal du texte, c'est, me semble-t-il, celui que je viens d'énoncer. D'où vient le mal ? Répondre à cette question. Ces préambules étant posés, eh bien, abordons maintenant le texte. Je le prends donc dans la tobe. Or, le serpent était le plus astucieux de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. D'où vient-il ce serpent? Eh bien, il est emprunté aux mythologies ambiantes. Dans l'épopée babylonienne de Gilgamesh, c'est lui, le serpent, qui dérobe la plante d'immortalité. Parce que dans toutes les cultures, la mort fait problème et on cherche l'immortalité et le fruit, la plante, l'arbre qui pourra éventuellement la procurer. dans tout le Proche-Orient, on peut dire que le serpent est une sorte d'animal sacré, c'est-à-dire d'un être à la fois fascinant et répugnant. Vous savez qu'on a ainsi décrit le sacré. Fascinant, et du même coup il peut devenir tentateur, et répugnant, ce qui permet d'en faire l'origine du péché. On va le faire parler, ce serpent, comme dans les contes et dans les mythes. Cependant, l'auteur, qui sait bien qu'il s'inspire, qui connaît les mythes des cultures environnantes, l'auteur corrige l'aspect mythologique en disant que ce serpent appartient aux créatures que le Seigneur Dieu a faites. Une manière de le démythologiser, si je puis dire. Mais n'y a-t-il pas une contradiction, parce que toutes les créatures ont été dites bonnes? Comment se fait-il qu'une créature va être à l'origine de la tentation? La fonction du serpent dans le récit est d'être l'introducteur de la tentation. Tentation qui conduit au péché. Il est donc, de quelque manière, l'introducteur du mal. Cet introducteur, aux yeux de l'auteur biblique, ne peut être Dieu, car dans ce cas, Dieu serait à l'origine du mal, ce qui est pour lui impossible. Ce ne peut être non plus l'homme, car celui-ci a été créé bon. Je vais revenir sur ce point dans un instant en parlant des deux arbres du récit. Puisque ça ne peut être ni Dieu ni l'homme, l'auteur recourt à un serpent parlant. Bien sûr, il sait aussi bien que nous que les animaux ne parlent pas. Et il sait que les animaux n'ont pas reçu de Dieu le don de la parole. Il sait bien qu'un serpent parlant, ça n'existe pas vraiment dans la réalité. Au fond, c'est un symbole. Il y avait pas mal de sculptures dans le monde environnant Israël de serpents sacrés que l'auteur a peut-être pu voir. Un symbole qu'on interprétera plus tard, dès le livre de la sagesse, comme représentant le diable. L'auteur fait des jeux de mots à propos de ce serpent. Il est dit astucieux, arum en hébreu, et il vient d'être question, à la fin du chapitre 2, de l'homme et de la femme qui étaient nus, c'est-à-dire arumim en hébreu. Le serpent apparaît avec sa peau lisse comme un animal nu. symbole de nudité, symbole du sexe masculin dans bien des cultures. Et l'auteur, peut-être par ce premier jeu de mots, il y en aura encore plus loin, je ne sais pas si nous aurons la possibilité de les indiquer. L'auteur suggère qu'il y a un lien entre ce que nous appelons le péché originel et qui est dans son essence la plus profonde, nous allons le voir, et nous le savons bien, un péché d'orgueil, et bien qu'il y a un retentissement du péché d'orgueil dans les corps. Il a été dit donc que dans l'innocence, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, sans se faire mutuellement honte. Eh bien, c'est précisément ce rapport sans honte qui va être troublé. Le péché d'orgueil aura un retentissement au niveau des corps, au niveau de la sexualité. Ce n'est que suggéré par le texte, mais en tout cas, ce n'est pas impossible. Le serpent s'adresse à la femme. Vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Pourquoi à la femme ? Certains féministes disent que c'est un signe de l'antiféminisme biblique, que dans la Bible, la femme est considérée comme plus faible moralement. Bien sûr, on ne peut pas nier que nous sommes dans une culture patriarcale et la Bible n'échappe pas à tous les préjugés de son temps. Mais il s'agit cependant peut-être de tout autre chose. Et je voudrais ici évoquer l'interprétation d'Anne-Marie Pelletier, qui a écrit un très beau livre sur la femme dans la Bible, et qui, s'appuyant d'ailleurs sur l'indice littéraire qui fait que les chapitres 1 et 2 relèvent de la tradition sacerdotale, tandis que avec le chapitre qu'à un moment donné donc nous passons à la tradition yaviste, Anne-Marie Pelletier resitue cette question à l'intérieur de la problématique générale de l'alliance. L'alliance, vous le savez, est, pourrait-on dire, la catégorie biblique fondamentale. Et elle a été, cette catégorie, interprétée en termes nuptiaux par les prophètes. Dieu est l'époux, le peuple et l'épouse. À l'intérieur de cette symbolique biblique, l'humanité dans son ensemble est femme devant Dieu. Et si le tentateur s'adresse d'abord à la femme, ce serait, selon Anne-Marie Pelletier, parce que précisément, il va s'agir ici du péché de toute l'humanité. Vous avez entendu, je viens de les relire, et vous les avez sous les yeux, les paroles du serpent. L'homme et la femme sont, au moment où nous les rencontrons ici, sont innocents, adhérant totalement à Dieu dans la foi et l'amour. Par conséquent, la tentation ne peut se présenter à eux qu'au nom de Dieu. Et c'est pourquoi le serpent cite Dieu. Mais il y a une ambiguïté extraordinaire et très subtile dans la manière dont le serpent se réfère à la parole de Dieu. Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Cela est vrai, de quelque manière, puisque Dieu a mis une exception. Vous pouvez manger de tous les arbres, n'est-ce pas? Je tourne la page de la Bible, je reviens un peu en arrière, à Genèse 16-17. Dieu dit, « Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du malheur, du bonheur et du malheur, dit la Tobe, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. » Alors, quelques mots sur ce commandement qui est donné à l'homme. Il est d'abord positif. Tu pourras manger de tout arbre du jardin. Et puis, il y a un interdit, mais un interdit qui n'est pas arbitraire, puisque c'est afin de préserver miséricordieusement l'homme de la mort que Dieu donne ce commandement de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous verrons dans un instant ce que cela signifie. Mais le tentateur cite la phrase de telle manière qu'il accentue l'aspect de l'interdit, l'aspect de négatif du commandement divin. Et la phrase qu'il utilise pourrait signifier que Dieu a interdit à l'homme tous les arbres. Et la femme, d'ailleurs, va le rectifier. Mais nous avons là un enseignement moral intéressant sur l'essence de la tentation. La tentation fait toujours apparaître Dieu comme celui qui limite notre liberté, alors qu'en fait, il en est le fondement. Mais la tentation, c'est toujours de commencer à ressentir Dieu comme celui qui empêche, qui dit non, alors que en Dieu, comme dans le Christ, il n'y a que oui. Alors, la femme donc rectifie, elle dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. » Elle rétablit en quelque sorte l'aspect positif du commandement divin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. Donc il s'agit ici de l'arbre qui est au milieu du jardin. Alors je ne sais pas si vous avez jamais fait attention à cette question de ces deux arbres et de l'arbre qui est vraiment au milieu. Mais d'après le chapitre 2, au verset 9, donc un peu avant notre chapitre 3, l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Je relis ce passage. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin. Donc là, c'est bien l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. Et puis on continue. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du bonheur et du malheur. À première lecture, on pourrait penser que la réponse de la femme voudrait dire que Dieu a interdit de manger de l'arbre de vie, puisque c'est bien l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. Or, explicitement, c'est du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vais utiliser cette expression, bien et mal. La traduction de la Tobe montre bien, évidemment, que pour la Bible, bien et bonheur sont liés, mal et malheur sont liés. Dans la pensée biblique qui est concrète, les deux aspects sont inséparables. Donc je reviens à nos deux arbres là. C'est bien du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu a défendu de manger en Genèse 2, 17 que je viens de lire. Y a-t-il une inconséquence dans le texte? Ou bien ces deux arbres inséparables n'en sont-ils qu'un finalement? Au fond, le texte va nous enseigner que pour avoir accès à l'arbre de vie, il faut se garder de manger de l'arbre de la connaissance. Si on mange de celui-ci, pas d'arbre de vie. L'attitude vis-à-vis de l'arbre de la connaissance conditionne l'accès à l'arbre de vie ou l'éloignement de l'arbre de vie. Mais être éloigné de l'arbre de vie, nous pouvons le voir tout au long du texte, être éloigné de l'arbre de vie, être chassé du jardin, cela signifie mourir. La question de la vie et de la mort est vraiment au centre de notre texte et de la réflexion qui y est menée. Essayons donc de mieux comprendre la signification de ces deux arbres. Il s'agit d'une signification symbolique au sens fort de l'adjectif. Nous avons parfois une idée du symbole qui est trop faible. Mais le symbole est extrêmement important pour la Bible et pour la pensée chrétienne d'ailleurs en général. Le mythe, puisque nous avons parlé de mythe, le mythe fonctionne non seulement avec des concepts, mais aussi avec des symboles. Le concept définit les choses, il les enferme aussi, tandis que le symbole, lui, ouvre. il ouvre toujours sur, il renvoie toujours à autre chose, à plus large que lui-même, et il ouvre donc toujours sur un infini de sens. Dans notre texte, les mots serpent, jardin, arbre, fruit sont des termes éminemment symboliques. Alors, avant d'en venir à nos deux arbres d'une manière plus précise, réfléchissons quelques instants, si vous voulez, à la symbolique, j'allais dire, naturelle de l'arbre. L'arbre possède des racines profondément enfoncées dans la terre nourricière. Tandis que ses branches, elles, se déploient dans le ciel. Et le tronc relie les deux. Alors, nous avons là immédiatement un symbole. En psychologie, d'ailleurs, je ne sais pas si on le fait encore maintenant, mais dans le temps, certains psychologues utilisaient ce qu'on appelait le test de l'arbre. Ça consistait non pas à dire au patient « dessine-moi un mouton », comme le petit prince, mais le psychologue demandait « dessine-moi un arbre ». Et puis, il pouvait interpréter le dessin. Je vais le faire grossièrement, évidemment, les psychologues le font avec beaucoup plus de finesse. Mais les racines peuvent être plus ou moins apparentes. Ou bien les branches peuvent être petites ou au contraire largement déployées. Le tronc aussi peut être long ou bien court. Alors, d'emblée, on voit que le dessin peut exprimer quelque chose de la personne. On dit parfois qu'il faut, n'est-ce pas, avoir les pieds bien sur terre et la tête dans le ciel. Eh bien, l'arbre signifie cela symboliquement immédiatement. Simplement par sa silhouette, il signifie le lien entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre, entre l'idéal et la réalité, et cela par une médiation plus ou moins importante, qui est sans doute celle de la liberté, et qui sera figurée par le tronc auquel on donnera plus ou moins d'importance. Nous voyons donc que l'arbre a par lui-même une signification symbolique. Et c'est ce symbolisme que notre auteur utilise. Parlons d'abord de l'arbre de vie. Il apparaît en d'autres endroits de la Bible, en particulier dans les livres de sagesse et jusque dans notre Apocalypse dans le Nouveau Testament. Le fruit de l'arbre de vie donne l'immortalité. Et le fait qu'il est dit être au milieu du jardin que Dieu a planté pour l'homme, ce fait montre que Dieu veut faire don à l'homme de l'immortalité. Et cela, sans qu'il connaisse la mort telle que nous l'expérimentons maintenant après le péché. Dans son dessein originel, Dieu ne veut pas la mort. Dieu veut l'homme immortel. Dans notre texte, la mort est très clairement présentée comme une conséquence du péché. Après le péché de l'homme et de la femme, Dieu dira à l'homme, tu es poussière et à la poussière tu retourneras, en 3:19. Mais cette immortalité, l'homme doit en quelque sorte la faire sienne par un acte libre. Et ici, nous voyons la différence qui existe entre la pensée grecque, par exemple, et la pensée biblique. Pour les Grecs, l'immortalité, parce que Socrate, Platon, Aristote croyaient à l'immortalité de l'âme, mais cette immortalité reposait sur le fait que ils avaient bien remarqué que dans l'homme, il n'y a pas que de la matière, il y a de l'esprit, il y a du spirituel qui est apparenté à l'éternité, à ce qui dure. Et donc c'était en réfléchissant sur cette présence de ce qui est spirituel dans l'homme que ces philosophes grecs étaient arrivés à l'idée d'immortalité. Dans la Bible, ce qui est premier, ce ne sont pas les essences sur lesquelles on réfléchit, ou les natures, mais c'est la relation. Et donc la Bible ne contredit pas le fait que il y a que l'homme a en lui, par son esprit, quelque chose d'immortel. Mais dans la Bible, tout est relation de liberté à liberté. Tout est, la création elle-même est conçue comme une alliance de liberté entre Dieu et l'homme. Et par conséquent, cette immortalité, l'homme doit la faire sienne par un acte libre, c'est-à-dire par son obéissance au commandement qui dit « De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. » Alors donc, nous en arrivons ainsi à l'autre arbre, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est évidemment pas le discernement moral du bien et du mal que Dieu interdit. Ce discernement nous est bien nécessaire et est loué comme un bien en de nombreux passages de la Bible. La connaissance dont il est ici question n'est pas une connaissance abstraite, notionnelle. Il s'agit d'une connaissance expérimentale. Pour la Bible, le type même de la connaissance est la connaissance que l'homme et la femme acquièrent l'un de l'autre dans l'étreinte sexuelle. Donc c'est une connaissance qui est en même temps une expérience. Manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est vouloir expérimenter tous les possibles de l'homme, dans le mal comme dans le bien. C'est donc se faire Dieu avec un petit dé, c'est-à-dire se faire être sans limite, ne pas se donner, ne pas admettre de limite, et expérimenter aussi bien les voies du mal que les voies du bien. Créé bon, l'homme et la femme, avant le péché, sont totalement orientés vers Dieu, vers le bien, vers l'amour. Ils sont sans idée de mal. Ils ne pourraient en avoir qu'une idée purement abstraite, comme le contraire logique du bien. Mais ce n'est pas donc cela que la Bible entend par connaissance du mal. Donc cette idée de mal, puisque l'homme est créé bon, créé orienté vers Dieu, cette idée ne peut venir à l'homme et à la femme que de l'extérieur. Dans le récit originaire, peut-on dire, de Genèse 3, cette idée du mal leur provient, nous l'avons dit déjà plus haut, leur provient du serpent parlant. Mais dès que, sous son instigation de ce serpent, la femme envisage de manger de l'arbre, elle met quelque chose en balance avec la parole de Dieu. Elle met quelque chose sur le même niveau que Dieu. Et donc, elle devient idolâtre. Elle se donne une alternative entre le bien et le mal. Je parle non pas de la femme prénommée Ève ici, hein, mais je parle de l'humanité, comme nous l'avons vu il y a un instant. Donc elle se donne une alternative entre le bien et le mal. Elle réduit sa liberté à une liberté de choix, au libre arbitre. Or, notre liberté ne se réduit pas au libre arbitre. Notre liberté profonde, spirituelle profonde, c'est de coïncider parfaitement avec nous-mêmes, avec notre vocation, avec Dieu, finalement. Hegel définissait la liberté comme être vraiment auprès de soi-même. Le contraire de la liberté, c'est tout ce qui nous aliène, c'est tout ce qui fait que nous restons extérieurs à nous-mêmes. Mais la parfaite liberté, c'est cette pure coïncidence avec soi-même et du fait que nous sommes créés par Dieu. Cette parfaite coïncidence avec soi-même n'est possible que par une parfaite coïncidence avec la volonté de Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est en quelque sorte le symbole de notre liberté quand elle se pense comme alternative, c'est-à-dire comme liberté blessée déjà, alternative entre le bien et le mal. Le texte de Genèse 3 nous présente donc l'enjeu profond de notre liberté. Il nous révèle que nous avons choisi d'être alternative plutôt que tension unifiée vers Dieu, vers le bien. Vers le bien uniquement, sans connaître le mal. Mais nous penser, selon la problématique du bien et du mal, eh bien, c'est déjà nous mettre dans une problématique pécheresse. C'est là un point très important de notre texte, qui donc veut montrer que la tentation, le mal, ne peut ni provenir de Dieu, ni provenir de l'homme lui-même, elle ne peut lui provenir que de l'extérieur, et elle pénètre en l'homme lorsque l'homme, justement, se pense lui-même comme alternative du bien et du mal, ou comme connaissance du bien et du mal, des deux. Nous n'avons pas le temps, évidemment, de lire la totalité du passage. Mais nous voyons que le serpent met carrément en doute la parole de Dieu. Non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance du bien et du mal, du bonheur et du malheur. Vous voyez comment la question de la mort et de la vie est vraiment au centre. Et ce que le serpent insinue, c'est que Dieu veut se réserver justement l'immortalité, qu'il ne veut pas la donner à l'homme. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, eh bien, vous serez comme des dieux. Et les dieux, ce sont les dieux au pluriel ici, c'est Dieu avec sa cour, parce que la Bible ne s'est jamais représentée un dieu solitaire. Mais Dieu est de toujours entouré d'êtres supérieurs qui sont auprès de lui. Et c'est l'origine lointaine, si je puis dire, de notre pensée d'un Dieu trinitaire. Pour la Bible, il n'est, pour ainsi dire, jamais question d'un Dieu qui pourrait être solitaire. Ça n'a pas de sens pour la Bible. Mais donc le serpent insinue que Dieu veut se réserver à lui et à ses êtres supérieurs éventuellement l'immortalité, mais qu'il ne veut pas la partager avec l'homme. Or, nous l'avons vu précédemment, l'arbre de vie est au milieu du jardin que Dieu a planté pour l'homme. La suite de l'histoire, nous la connaissons bien. Après que l'homme et la femme ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, effectivement, ils acquièrent une certaine connaissance. Mais c'est une connaissance bien décevante. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Donc c'est une découverte de leur nudité, alors qu'auparavant cette nudité était vécue dans l'innocence, cette nudité était vécue sans honte, sans malaise aucun. Ici, au contraire, ils prennent conscience de leur fragilité, de leur pauvreté, et aussi de la violence du désir sexuel qui est en eux. Dans le récit de la création de la femme, il apparaît bien que l'un et l'autre sont donnés l'un à l'autre par Dieu. Et donc ils se connaissent à l'intérieur de cette donation divine, si je puis dire, dans la lumière de cette donation, ce qui fait qu'ils n'ont aucune honte de leur nudité. Mais maintenant qu'ils ont désobéi à Dieu, qu'ils se sont coupés de Dieu, eh bien, leur corps apparaît avec une violence qui est nouvelle par rapport à l'avant-péché. Une violence qui est présente en eux, qu'ils découvrent et contre laquelle ils se défendent en se revêtant de pagnes faits de feuilles de figuier. C'est un peu ce que je disais plus haut, c'est que le péché, qui est un péché de désobéissance, qui est un péché d'orgueil finalement, pour connaître le bien et le mal, ce péché a un retentissement au niveau des corps, au niveau de la sexualité. Alors dans les versets qui suivent, et que je n'ai pas le temps de lire, dans les versets qui suivent, on voit les conséquences du péché. L'homme est touché par le péché dans la triple relation qui le constitue, sa relation à Dieu, sa relation à autrui, sa relation à la nature. Après le péché, l'homme se cache de Dieu. Et donc, il a maintenant peur de Dieu. C'est un premier effet du péché. C'est que l'homme a peur de Dieu. Et il est comme perdu, loin de son Dieu. Et Dieu lui-même, d'ailleurs, au verset 9, lui dit « Où es-tu, Adam ?» C'est comme si Dieu et l'homme s'étaient perdus l'un l'autre. Du point de vue de la relation à autrui, nous voyons clairement dans le texte qu'une deuxième conséquence du péché, c'est que l'homme a de la peine à prendre sur lui la responsabilité du péché. L'homme et la femme la prennent en partie. Elle dit « j'ai mangé » et lui dit « j'ai mangé ». Mais en même temps, l'homme accuse la femme et indirectement Dieu, puisqu'il dit « c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a tenté et j'ai mangé ». Et la femme, elle, accuse le serpent. C'est conséquence du péché, c'est-à-dire qu'on devient accusateur les uns pour les autres. Et les relations se compliquent de convoitise et de domination. Dieu dit à la femme, tu seras avide de ton homme et lui te dominera, mais c'est vrai aussi dans l'autre sens. On ne peut pas mettre la domination uniquement du côté de l'homme et la convoitise du côté de la femme. Elle affecte les relations mutuelles. Et la relation à la nature aussi est touchée, puisque la terre produit l'épine et manger son pain exige un travail désormais pénible. Telles sont les conséquences du péché. Elles sont présentées dans le texte comme des châtiments, selon la théologie de l'époque, et cette théologie évoluera, nous savons comment elle sera mise en question dans certains livres bibliques. Mais cela signifie, ces châtiments signifient que Dieu ratifie le monde tel que le péché l'a créé. En même temps, il nous est bien montré que Dieu n'abandonne pas l'homme et la femme. Ils ne meurent pas, du temps leur est donné, ils ne sont pas maudits, et Dieu leur promet la victoire finale sur le mal. Dieu dit au serpent, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira à la tête et toi, tu la meurtriras au talon. » Donc, finalement, l'humanité vaincra le mal, mais elle en sera tout de même blessée. Genèse 3 nous donne un enseignement important au sujet de l'innocence originelle, de la tentation et du péché. Ce sont des notions évidemment qui sont capitales en théologie morale, et donc nous sommes dans une recherche de théologie morale. Nous avons vu que l'intention principale du texte que nous avons lu, de Genèse 3, est de répondre à la question d'où vient le mal et d'innocenter Dieu de la tentation, du mal moral, de la souffrance et de la mort. Il est important d'ajouter, et je termine par là, il est important d'ajouter que ce texte de Genèse 3 n'est pas la seule parole de la Bible, ni sa parole dernière sur cette question si difficile du mal. Mais c'est aussi une page, en tout cas, qu'on ne peut pas négliger. Voilà, je vois que l'heure est passée. Je vous remercie de votre attention.